La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec ce matin Jean-Marie Colombani que vous retrouvez demain à 8h, je vous le rappelle, pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Et je me suis pas trompé, c'est pas 8h30, c'est 8h et ça se termine à 8h30. Et Cécile Cornudet dont on peut lire l'édito politique chaque jour dans Les Échos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là en ce vendredi matin. Le débat sur la maîtrise des finances publiques a ressurgi. Bruno Le Maire a fait de la réduction des déficits la mère des batailles. Le président a sensibilisé sa majorité au sujet mercredi soir. Hervé Gattegnaud vient de le rappeler dans sa revue de presse. Mais il y a toujours un tabou, c'est l'augmentation des impôts. Le président s'est engagé à ne pas le faire. A-t-il eu raison de se lier les mains ?
Je sais pas si ça lui lie les mains. En tout cas, aujourd'hui, c'est toujours un tabou. Après, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours eu un débat au sein de la majorité, hein, notamment le Modem, qui disait faut taxer les riches, faire un rééquilibrage. Mais là, ce qui me frappe, c'est que le débat se resserre sur le premier cercle de la Macronie. Des personnalités comme Gérald Darmanin laissent, pas publiquement, hein, mais en interne, laissent entendre que ça n'est pas possible de continuer comme ça. Quand il y a eu les résultats record de Total fin janvier. Il a pris la parole au sein de Renaissance pour le dire. Même Gabriel Attal, on sent en privé qu'il ne voit pas comment ils vont pouvoir boucler le prochain budget
sans augmenter les impôts.
Alors pas l'IR, etc. Et sans les appeler impôts, mais une taxe par-ci, une contribution par-là et un symbole sur les riches. Parce qu'en réalité, cette réunion à laquelle vous faisiez mention d'Emmanuel Macron avec ses ministres sur les dépenses publiques, en gros, ils sont tous sortis en se disant il n'a pas beaucoup d'idées sur où est-ce qu'on va couper, si ce n'est peut-être de geler l'indexation des prestations. Toutes les prestations, retraites, etc., qui sont indexées sur l'inflation, ça, il ne s'est jamais engagé à ne pas le faire, sauf avant les européennes, ça, il ne veut pas toucher aux retraites, mais pour après. Et ça, c'est vraiment socialement difficile. Donc, chacun se dit, est-ce qu'il va falloir des signaux sur les plus riches ?
Jean-Marie Colombani, est-ce que c'est la première fois que la question des finances publiques est prise autant au sérieux au sein d'un gouvernement ? Est-ce que, parce que on est au pied du mur, ça fait quand même quelques années qu'on l'entend, oui. Mais là, on a le sentiment que la peur est aussi là.
Oui, et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est cette dramatisation à quelques semaines d'une élection importante, les élections européennes. Donc on se dit, là vraiment, le gouvernement charge sa propre barque en dramatisant. C'est cette dramatisation qui m'échappe un peu parce que...
Moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Il y a l'INSEE qui va dramatiser tout seul mardi.
Sûr.
Et que du coup, il est obligé de prendre les devants pour montrer qu'il n'est pas passif.
Peut-être, mais cela dit, il faut rappeler que d'abord, la gestion du déficit, c'est une constante française. C'est vraiment une donnée de base de la vie politique française. C'est qu'on est en déficit et ça, on l'est de toute éternité. Donc ça, c'est structurel. Et puis, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. De façon conjoncturelle, on vient de la gestion de la crise du Covid. Et le crise du Covid, c'est quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte a rendu service à tout le monde. Donc on était dans un consensus général. Donc à un moment, on arrête le quoi qu'il en coûte et donc on s'aperçoit qu'il faut rectifier un petit peu les comptes. Et c'est là que ça devient difficile parce que faire des efforts... Ça peut se concevoir à la condition que ce soit bien réparti. Et à la condition que cette répartition soit ressentie comme juste. C'est là qu'arrive la question des recettes et c'est là qu'arrive la question des impôts. Alors, sur les impôts des particuliers, la voie est fermée. On a quand même eu les gilets jaunes. Auparavant, il y avait eu les bonnets rouges et ainsi de suite. Par de multiples signes, la société montre que l'impôt, il faut plus trop y toucher. Donc, on se retourne vers les grandes entreprises. Et vers les grandes entreprises, il y a certainement, d'une certaine façon, du grain à moudre. Donc, il y aura peut-être une voie de passage de ce côté-là, comme l'indiquait à l'instant Cécile. Parce que sinon, vers les particuliers, ça me paraît vraiment mission impossible, sauf à réveiller des contestations ici et là, dont on sait ce qu'elles nous ont coûté. Donc voilà. Et par ailleurs, je
ce serait la première fois qu'on peut reprocher à un président de tenir sa promesse. Alors
oui, exactement.
Parce qu'il tient sa promesse.
Oui, il
n'a pas touché aux impôts.
Pour le moment, il tient sa promesse. Et puis il se souvient aussi des dégâts, parce qu'on voit beaucoup Pierre Moscovici en ce moment, qui au nom de la Cour des comptes sonne l'alarme. Il faut se rappeler que c'est lui qui était l'auteur de cette phrase sur le ras-le-bol fiscal au moment du choc fiscale décrétée par François Hollande et qui a quasiment coûté son quinquennat à François Hollande. Donc on voit bien que là, c'est une voie qui est vraiment impossible. Mais sur la dramatisation, moi je trouve qu'il faut prendre ça avec le calme des vieilles troupes d'une certaine façon, parce que les emprunteurs, pour le moment, favorisent plutôt l'emprunt, vont plutôt chercher la dette française. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de tempête à venir. Et il y en a d'autant, non, il y en a d'autant moins que l'Europe est en retard en matière de croissance. Tout le monde a un problème de croissance. Et cette croissance, elle va être aidée par la Banque centrale. Comment ? Pas en augmentant les taux, qui serait en effet une mauvaise nouvelle et une difficulté qui obligerait à agir, mais en les baissant. Donc cette baisse des taux va probablement, d'une certaine façon, calmer le jeu.
Apporter un peu d'oxygène, peut-être faire du bien à la croissance. Le général de Gaulle disait, la politique de la France se fait pas à la corbeille. Est-ce que dans quelques semaines, on va dire, la politique économique de la France et financière ne se fait pas en se prosternant au pied des agences de notation, Cécile Cornudet?
Ben moi, je trouve qu'on se prosterne pas tellement. Quand on voit, parce que je suis un peu plus inquiète que Jean-Marie sur ce sujet de la dette, on est quand même, tout le monde en Europe a fait une forme de quoi qu'il en coûte pour aider sa population pendant le Covid. Mais nous, on est celui qui a le déficit le plus important. Aujourd'hui, on est vraiment lanterne rouge. Donc, si on avait voulu se prosterner devant les agences de notation, on aurait fait quelques réformes, on aurait coupé quelques dépenses depuis déjà longtemps. Et là, entre nous, c'est dans un mois, la première agence de notation, tout le monde, y compris Bruno Le Maire, s'attend à ce qu'on ait une dégradation. Il dit, moi j'ai sauvé la note de la France deux fois, là je peux pas faire de miracle. Donc non, je pense qu'on est dans une situation compliquée. Après, je sais pas ce que ça produit, une baisse de la notation, mais voilà, la...
Sur... Ça produit les cris d'orfraie de l'opposition.
Non, mais sur les marchés, ça crée un doute.
Sur les marchés, oui, quand bien même. Sûr, mais en on même temps, voir, si on regarde aujourd'hui la façon dont est recherchée la dette française, pour le moment, l'agence qui place la dette, franchement, n'a pas d'inquiétude. Et sinon, on le saurait, quoi.
Cécile Cornudet, quel est l'électorat qui est le plus sensible aux questions des équilibres budgétaires? Parce qu'on dit, bon, les Français sont un peu cigales, etc., etc. Il y a bien un électorat qui peut-être recoupe celui d'Emmanuel Macron, qui est sensible, évidemment, aux baisses d'impôts, tout le monde y est sensible, ou en tout cas à la stabilité fiscale, mais sur les grands équilibres budgétaires, sur le fait...
C'est les personnes âgées, parce qu'elles sont soucieuses de leur épargne. Alors, elles y sont sensibles jusqu'au moment où on ne touche pas le niveau de pension des retraites.
Et ceux-là, ils votent Macron.
Pour pouvoir les combler. Et c'est ceux-là qui votent Macron.
Je résume.
Oui, mais c'est très, très net. Dans le sondage, il y a une rupture générationnelle. L'électorat âgé vote Emmanuel Macron et il n'a pas du tout les jeunes en ce moment. Donc, voilà, c'est celui-là qu'il faut rassurer, tout en lui disant que les retraités ne vont pas être mis à contribution. Là, il y a eu un rattrapage des retraites très important, décidé en janvier, de 5%, donc supérieur à l'inflation. Donc beaucoup a été fait pour les personnes âgées.
Une polémique qui a l'air triviale en apparence, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Olivier Véran, député et chirurgien esthétique dans une clinique chic sur les Champs-Élysées, un jour par semaine, tout en étant député. La reconversion ne passe pas. Rappelons qu'Olivier Véran est neurologue de formation. Cécile, il fait ce qu'il veut, le député.
Oui, il fait ce qu'il veut. Alors, il a raconté ça dans une interview au Figaro. Le problème, c'est qu'il dit aussi, en même temps, dans cette interview, qu'il va continuer son travail à l'Assemblée et qu'il va incarner l'aile gauche de la Macronie. Donc, être à la fois l'aile gauche de la Macronie et choisir cette spécialité de la médecine esthétique dans la clinique symbolique des Champs-Élysées.
Rappelons qu'il a été ministre de la Santé, je ne l'ai pas
COVID,
dit. Pardon.
Pendant le Covid, alors qu'on manque tellement de personnel à l'hôpital, faire ce choix-là, il y a comme une contradiction. Moi, je pense qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre dans ce pays. Mais faire une communication autour de ça en disant « mais parce que je vais aider les femmes qui veulent être plus belles », c'est presque une vocation sociale.
Ou à se réparer après un cancer.
Voilà, c'est un petit peu... c'est pas de la chirurgie, hein, c'est de la médecine esthétique.
Jean-Marie Colombani, est-ce qu'on n'est pas là dans une des grandes activités médiatiques du moment qui, plutôt que de rapporter des faits, s'intéresse à ce qui est décent ou indécent? J'ai l'impression qu'une partie de la classe journalistique passe plus de temps à ça qu'à éclairer l'actualité.
Vous avez sûrement raison, parce que c'est vrai que là, on est dans le cas typique. En même temps, il donne quand même des occasions de le critiquer, parce que voilà quelqu'un qui était député socialiste et qui a participé à un gouvernement qui est franchement à droite aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui nous faisait l'éloge des services publics et qui s'éloigne du service public pour aller vers le profit privé. Donc on se dit, de quel bois est-il fait ? Ça donne l'image de quelqu'un, finalement, qui n'est pas loin d'une certaine médiocrité ambiante. Donc, voilà, c'est ça qui est dommageable. Après, je pense que le sort d'Olivier Ferrand indiffère l'opinion. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez raison, on fait plus attention à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui doit se dire, ce qui peut se dire, ce qui ne peut pas se dire, que
mais la réalité des faits. Mais on ne le ferait pas s'il ne faisait pas de la communication autour de ça.
Oui, s'il ne faisait pas de la politique aussi. Oui. S'il quitte l'Assemblée, très bien, il peut développer la clinique
qu'il
veut.
Mais en restant
à l'Assemblée.
Il a le droit d'être député.
Il a totalement le droit. Alors, il n'opérera pas, il n'est pas chirurgien, mais c'est une question de médecine. Bon, il aurait pu, voilà, mais en même temps, c'est son choix, c'est son droit, d'une certaine façon. Voilà. Et ça n'est pas un personnage qui mérite autant d'attention, me semble-t-il.
Je voulais terminer avec un sujet, alors là, pour le coup, très léger, mais quand même, ça passionne les Français, ça fait partie des petits bonheurs qui restent aux Français. Ce sont les séries. Le festival Sériemania de Lille se termine aujourd'hui. Quelques privilégiés ont pu y voir les deux premiers épisodes de la série Dans l'ombre, signée Édouard Philippe et, je crois, de son acolyte Gilles Boyer. Elle y a été projetée, en tout cas, les deux premiers épisodes. C'est l'occasion pour moi de vous demander à tous les deux de prescrire à nos auditeurs une série politique chacun qui vous aurait passionné et de nous dire pourquoi ces séries vous ont passionné.
Il y a beaucoup de séries politiques, en effet.
Il faut choisir une.
Moi, j'en choisis une, c'est The Fellow Travelers.
Pas connue.
C'est une série américaine qui est très intéressante parce que ça montre l'amour impossible entre deux hauts fonctionnaires américains. Mais ça nous fait partir du McCarthyisme pour arriver à pratiquement aujourd'hui. McCarthyisme, ça rappelle exactement l'ambiance, la chasse au communisme, mais que cette McCarthyisme n'était pas limité à la chasse au communisme, il s'étendait aussi à la chasse aux homosexuels. Et c'était d'une virulence et d'une violence terrible. Et ça va jusqu'à Reagan, et à Reagan, l'erreur tragique de Reagan de mésestimer le sida et ce qui allait arriver avec le sida. Et donc on voit apparaître les premières manifestations qui ont leur prolongement aujourd'hui avec le SIDAction. Donc c'est tout ce déroulé de la vie politique américaine qui explique aussi la virulence, par exemple, de la politique anti-homosexuelle, explique très exactement aujourd'hui pourquoi il y a eu ce mouvement woke si virulent aussi. C'est en partie en réaction contre ce qui a existé aux États-Unis et qui était d'une parfaite intolérance. Donc c'est pour toutes ces raisons. En plus, c'est une série qui est intéressante aussi parce que elle filme les scènes de sexe entre hommes, comme on filme les scènes de sexe entre hommes et femmes. Donc c'est aussi une façon de d'avancer dans la cinématographie.
En général, ça ne correspond pas toujours à la réalité.
Absolument.
Les gens font ça debout, sur des frigos. Passons, en tout cas.
On s'en amuse, en tout cas.
En tout cas, je retiens que l'Amérique explore très bien son passé pour éclairer le présent avec la prescription. Vous pouvez nous rappeler le titre ?
The Fellow Travelers.
Bon, vous cherchez sur Internet, parce qu'à mon avis, ça n'a pas été diffusé sur France 2, TF1 ou même Canal.
C'était sur Canal.
Absolument. Parfait. Bon, ben comme ça, vous l'avez dit. Cécile Cornudet, pour
terminer. Moi, c'est moins original. Moi, j'ai beaucoup aimé Baron Noir, la série sur le maire de Dunkerque. C'est tellement criant de vérité. Ce qui est fascinant dans ces séries politiques, c'est que ce sont des anciens conseillers politiques qui écrivent ces séries. C'est vrai aussi pour Édouard Philippe et Gilles Boyer. Il y a une sorte de mise en abîme. Les séries marchent très bien, passionne les Français alors qu'ils se désintéressent de plus en plus de la vraie politique. Et du coup, il y a la vraie politique qui essaye de s'inspirer des séries en mettant en scène des communications. Dans la campagne d'Emmanuel Macron, il y avait eu tout un film sur ces journées. Donc, c'est une sorte de série où on suivait. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas très bien marché, celle-là.
Mais
d'ailleurs,
il arrive que les présidents américains utilisent des scénaristes pour leur faire des blagues dans certains meetings.
Donc, c'est complètement mêlé, mais pour l'instant, ça ne réconcilie pas les Français avec la vraie politique.
Cela dit, la mère de toutes les séries politiques, ça reste à la Maison Blanche.
À la Maison Blanche, j'aimais bien House of Cards aussi. Nous allons nous quitter avec un musicien assez politique, puisqu'il a fait toute sa place à la cour de Louis XIV. C'est Jean-Baptiste Lully. Il est mort un 22 mars 1687. Cécile, Jean-Marie, à la semaine prochaine. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci, David.